Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.
Chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de Solomon Northup. Nous avons fait sa connaissance la semaine dernière. Jeune homme noir libre, né dans un état non esclavagiste du Nord. Nous l'avons quitté alors qu'il nous confiait être à un tournant de sa vie. Mais encore, il en a trop dit pour ne pas préciser aujourd'hui.
Un matin, vers la fin du mois de mars 1841, je me promenais dans Saratoga Springs. Je n'avais à l'époque aucun travail et j'étais en train de me demander où je pourrais obtenir un emploi en attendant le retour des activités saisonnières. À l'angle de Congress Street et de Broadway, tout près de la taverne tenue par M. Moon, je fus abordé par deux messieurs à l'allure respectable. Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre. Je crois me souvenir qu'il m'avait été adressé par l'une de mes connaissances, mais je n'ai pas réussi à retrouver laquelle. Celle-ci leur avait confié que j'étais un excellent violoniste. Toujours est-il qu'ils placèrent immédiatement la conversation sur ce terrain, me posant de nombreuses questions quant à mes compétences. Mes réponses durent les satisfaire, car ils proposèrent de m'engager en affirmant que j'étais exactement la personne dont ils avaient besoin.
The downward road is crowded. Oh.
Chers auditeurs, pour ménager l'intrigue de notre récit, la traduction de ce premier chant ne vous sera donnée qu'à la fin de notre épisode. Mais en revanche, voici tout de suite la référence. Le thème essentiel de « The downward road is crowded » se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. « Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. » Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Maintenant, Solomon nous présente ses nouveaux associés.
Le premier, Brown, était un homme d'environ 40 ans, petit et trapu. Il avait l'air rusé et intelligent. Il portait une redingote et un chapeau noir, et disait habiter tantôt à Rochester, tantôt à Syracuse. Le second, Hamilton, était un homme au teint pâle et aux yeux clairs, et qui n'avait pas plus de 25 ans. Il était grand et élancé, vêtu d'un manteau tabac, d'un chapeau luisant et d'un gilet élégamment coupé. Tout son vêtement était du dernier chic. Ils appartenaient à un cirque qui faisait une tournée à Washington et étaient en route pour le rejoindre. Ils l'avaient quitté pour faire une excursion dans le nord et visiter le pays. Et ils payaient leurs frais en donnant ici et là une représentation. Ils me répétèrent qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des musiciens pour accompagner leurs numéros, et que si je voulais bien aller avec eux, à New York, ils me donneraient $1 par jour et $3 par soir de représentation, ainsi que de l'argent qu'il me faudrait pour rentrer à Saratoga. J'acceptai sur le champ cette séduisante proposition, tant pour l'argent que par désir de voir la métropole.
For a city, hallelujah. I am singing for a city,
hallelujah.
For a city into the heaven,
hallelujah.
City into the heaven,
hallelujah.
Lord, I don't feel always good, I don't feel always tired.
Sure.
of sorrow.
Alleluia.
Going to join that holy number.
Alleluia.
Through the walls of Zion.
Alleluia.
Lord, I
don't feel always good. I don't feel always tired.
I am seeking for a city. Par le merveilleux chœur Advent Kings. Je suis à la recherche de la ville. Je pars en guerre contre le diable pour renverser son royaume. Les meilleurs jours sont à venir. Alléluia. Et de quelle ville s'agit-il ? Jean nous l'indique dans l'Apocalypse au chapitre 3. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et maintenant, où en est Solomon ?
Anne, mon épouse, était partie pour Sandy Hill, distant d'une vingtaine de lieues, faire la cuisine chez Cheryl. Elle avait donc confié nos enfants à sa sœur pour ces quelques jours. J'estimais que mon absence serait de courte durée, donc je n'ai pas jugé nécessaire d'écrire à Anne pour lui dire où j'allais. En fait, je serais peut-être bien rentré avant elle. Aussi, après avoir pris du linge de rechange et mon violon, je fus prêt à partir. L'attelage arriva. Un attelage couvert, tiré par deux magnifiques chevaux bais. Le tout formant un splendide équipage. Leurs bagages, trois énormes malles, furent attachés sur la galerie. Et, m'asseyant sur le siège du conducteur, tandis qu'il s'installait à l'intérieur, je quittai Saratoga, par la route d'Albany. Enchanté de ma nouvelle situation et plus heureux que je ne l'avais jamais été.
Souvenons-nous des paroles prononcées par Solomon quelques années plus tôt, c'est-à-dire pour nous, chers auditeurs, dans le numéro 34 de la semaine dernière.
Je décidai de trouver du travail et, oubliant l'obstacle de la couleur, je me laissais aller à rêver d'un avenir meilleur.
Et aujourd'hui, cette motivation le guide encore devant une séduisante proposition. Alors peut-être que ce chant lui trotte dans la tête. Good news, bonne nouvelle. Il est interprété par The Spirituals Project. Bonne nouvelle, le chariot va passer et je ne veux pas qu'il me laisse là. Le chariot le plus connu de la Bible est bien sûr celui qui emporte le prophète Élie vers le ciel, sous les yeux d'Élisée, son disciple et successeur, dans le deuxième livre des Rois au chapitre 2. Pendant qu'il passait, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras, si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Quant au couplet de ce spiritual, ils égrènent la liste de tous les attributs des élus qui peuplent le ciel. Une robe immaculée, une paire d'ailes pour se déplacer, des chaussures pour ne plus être un va-nu-pied, une couronne, celle des vivants de Dieu, une harpe dorée pour louer l'Éternel. Symbolique ancienne, vous me direz, et pourtant, elle parle aux contemporains de Solomon. Revenons dans son monde, au XIXe siècle, dans la jeune Amérique. Rappelons-nous sa description des nouveaux employeurs, vêtus au dernier chic, Oui, la société du XIXe siècle se montre très attachée aux signes extérieurs de classe sociale, même dans ce nouveau monde qui s'était émancipé de la déjà vieille Europe. Normal donc que cette panoplie céleste puisse évoquer des signes extérieurs de dignité, dignité souvent malmenée, même pour un noir libre, dans un état libre du Nord. Alors, est-ce que le splendide équipage de Brown et Hamilton est le chariot qui apporte les bonnes nouvelles, l'avenir meilleur? Pour connaître la réponse, en route avec Solomon.
Nous atteignîmes Albany avant la tombée de la nuit. Ce soir-là, j'assistais à une de leurs représentations. Hamilton se tenait à l'entrée. J'étais l'orchestre à moi tout seul et Brown exécutait des numéros. Il jonglait, dansait sur une corde, faisait cuire des crêpes dans un chapeau, simulait des cris de cochon invisibles et se livrait à divers tours de ventriloques et de magiciens. Mais le public était extrêmement clairsemé et pas du meilleur du monde. Aussi, lorsqu'Hamilton vint nous rendre compte des entrées, ce n'était qu'une misérable addition de places vides. Tôt le lendemain matin, nous reprîmes la route. Il ne parlait plus maintenant que de rejoindre le cirque au plus vite. Arrivés à New York, nous logeâmes à l'ouest de la ville, dans une rue qui va de Broadway à l'Hudson. Je me voyais déjà, de retour à Saratoga, d'ici un jour ou deux, racontant mon voyage à ma famille et à mes amis. Mais Brown et Hamilton se mirent à insister pour que je les suive à Washington, pour quelques semaines. Ils firent valoir que le cirque repartirait bientôt dans ma région pour la tournée d'été. Ils me promettaient une situation intéressante. Ils s'étendaient longuement sur les avantages que j'en retirerais, et je décidai finalement d'accepter. Comme nous allions pénétrer dans un état esclavagiste, ils me conseillèrent d'aller me chercher un certificat de liberté avant de quitter New York. Cette démarche me parut prudente, mais sincèrement, je n'y aurais pas pensé moi-même. Nous nous rendîmes sur le champ au service des douanes. Là, ils attestèrent sous serment que j'étais un homme libre. On établit un papier que l'on devait présenter au greffe. Le greffier y porta une inscription et reçut la somme de 6 shillings. Puis, nous retournâmes au service des douanes. Il y eut d'autres formalités. Finalement, après avoir donné 2 dollars à l'officier des douanes, je rangeai soigneusement les papiers dans ma poche et regagnai l'hôtel avec mes 2 amis. Je pensais à l'époque, je dois bien l'avouer, que ces papiers ne valaient guère le prix qu'ils m'avaient coûté. L'idée qu'on pourrait en vouloir à ma sécurité personnelle ne m'ayant jamais effleuré, ni de près, ni de loin. Quoi qu'il en soit, j'avais désormais sur moi la preuve de ma condition d'homme libre. Le lendemain de notre arrivée à New York, nous avons pris le ferry pour Jersey, puis la route de Philadelphie en direction de Baltimore. À Baltimore, nous laissons l'attelage pour prendre le train jusqu'à Washington. Arrivés dans cette ville juste à la tombée de la nuit, nous descendons à l'hôtel et après le dîner, mes compagnons me remettent 43 dollars. Somme excédant largement le salaire promis. Ils m'expliquent aimablement que c'est pour compenser les mauvaises recettes des représentations. Et m'apprennent aussi que la troupe ne pourra pas quitter Washington demain comme prévu en raison des funérailles d'un grand homme public. Ils me conseillent amicalement de ne pas sortir dans les rues cette nuit-là, dans la mesure où j'ignorais les usages locaux. Un serviteur de couleur me conduisit à ma chambre, qui se trouvait au rez-de-chaussée, à l'arrière de l'hôtel. Je m'étendis pour me reposer et songer, avant de m'endormir, à ma femme et à mes enfants, et au long chemin qui nous séparait.
Au talent de violoniste de notre héros Solomon, j'ai choisi de vous faire entendre une version pour cordes de ce spiritual « I'm a poor wayfaring stranger ». Pendant que le quatuor à cordes Arcada, un groupe chrétien, joue la mélodie, nous allons lire la traduction et les références bibliques. Je suis un pauvre étranger en chemin dans ce monde de malheur. Mais là où je vais, il n'y a plus de maladie ni de danger. Là-bas, je verrai mon Père. Je ne me lamenterai plus. Mais sur le chemin, je sais qu'il y aura des nuages noirs au-dessus de moi. Mon chemin est rude et abrupt. Mais il y aura des champs dorés là où le Seigneur rachète ceux qui ont veillé. Je vais lâcher ma croix, m'abandonner à la volonté du Seigneur. Jésus rappelle qu'il n'est jamais trop tôt pour affronter ses péchés dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Ne dites-vous pas « encore 4 mois et ce sera la moisson ». Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Même Jésus vit l'affrontement entre sa volonté et celle du Père. Au mont des Oliviers, dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Est-ce que Solomon a eu le temps de moissonner avant de quitter Saratoga? Mais voyons ce qu'il attend à Washington en compagnie de ses 2 nouveaux amis.
Le lendemain, une grande cérémonie eut lieu à Washington. Je n'avais pas quitté Hamilton et Brown de la matinée. Ils étaient les seules personnes que je connaissais dans cette ville. Tout en flânant, nous allâmes voir le Capitole et, dans l'après-midi, la maison du président. Avec tout cela, je n'avais pas encore vu le cirque. En fait, je n'avais guère eu l'occasion d'y penser dans l'agitation de la journée. Plusieurs fois dans l'après-midi, mes compagnons entrèrent dans des saloons et commandèrent de l'alcool. Ce n'était pourtant pas dans leur habitude, pour autant que je sache, de se livrer à de tels excès. Dès qu'ils s'étaient servis, ils remplissaient un verre et me le tendaient. Pour autant, je ne me suis pas senti ivre. Mais peu après avoir ingurgité une de leurs boissons, je fus pris de violents élancements. Bientôt, je me sentis tout à fait mal. Ma tête bourdonnait. C'était une douleur lourde, tenace, pénible. À un point que je ne saurais dire. Lorsqu'on se mit à table, je n'avais pas d'appétit. La vue et l'odeur des aliments me donnaient la nausée. Brown et Hamilton me conseillèrent de me retirer. Ils se montrèrent pleins de sollicitude et exprimèrent l'espoir de me voir sur pied le lendemain. Arrivé dans la chambre, je me contentai d'enlever mon manteau et mes bottes et je me jetai sur mon lit. Il me fut impossible de dormir. Mes maux de tête augmentèrent jusqu'à devenir intolérables. Au bout d'un moment, j'eus soif. Mes lèvres étaient complètement desséchées. De l'eau, c'était la seule chose à laquelle je pensais. L'eau des lacs, des rivières, bondissantes, des ruisseaux où je m'étais désaltéré. L'eau débordant du seau qu'on remonte d'un puits, d'un frais et abondant nectar. Downward road is crowded, crowded. Crowded, the downward road is crowded with unbelieving souls. The wind blows east and the wind blows west, it blows like a judgment day. And every poor soul that never did pray will be glad to pray that day. Say the downward road is crowded, crowded. Crowded, the downward road is crowded with unbelieving souls.
Au début de notre émission, The Downward Road is Crowded est prêché et chanté par le révérend Ronald E. Brown. Mais à l'instant, nous avons écouté Damian Goggins. Nous sommes avertis. Il nous dit « Il y a foule sur la mauvaise pente. Elle est pleine d'âmes incrédules. » Perdu. Le jour du jugement arrive. Voyageur, viens et chante les prières éternelles de Jésus-Christ. Je ne peux pas résister à l'envie d'attirer votre attention sur un des mots de ce spiritual, Broadway, littéralement le chemin large. Personnellement, j'ai tout de suite pensé à New York, la métropole que Solomon rêve de visiter. Pour le moment, son état se rapproche plus du cauchemar que du rêve. Malheureusement, nous devons laisser Solomon mal en point, loin des siens, en terre inconnue. Mais c'est pour mieux le retrouver la semaine prochaine. En attendant, un grand merci pour votre attention. Merci à Emmanuel pour les lectures incarnées et simultanément la conception technique. Bonne semaine. Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.